You're with SBS Radio.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Michel Richard, qui est le directeur de l'Alliance française de Melbourne, qui est venu nous dire au revoir, adieu, après avoir passé 4 ans dans la capitale du Victoria. Bonjour et bienvenue, Michel.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on imagine que vous avez atteint vos objectifs de cette mission en Australie et que vous laissez un beau bilan après 4 ans.
Oui, le bilan est pas mal. Alors, on le doit aussi au travail de l'équipe, même surtout d'ailleurs. Ça a été une belle aventure ces 4 années en Australie. D'ailleurs, c'est drôle de terminer mon chemin australien ici à SBS, parce que je l'avais commencé pas tout à fait dans ces studios, puisque vous avez à peu près tout rénové ici.
Ouais.
Mais je me souviens, ça fait un peu étrange comme ça de venir vous dire au revoir. Ça me replonge à cette époque pas si lointaine, il y a 4 ans, quand j'étais venu vous dire bonjour cette fois-ci. Donc voilà, la place à quelqu'un d'autre qui va arriver au mois de septembre, Johanna Durand, qui est une femme très talentueuse. Je suis très content de lui passer le relais et je suis sûr qu'elle fera de grandes choses à Melbourne.
Michel, on parle des événements qui vous ont marqué le plus. Je pense au Festival du cinéma français, l'Alliance française French Film Festival, qui d'ailleurs a fêté ses 30 ans en 2019.
Oui, c'est une grande aventure. Hein. 30 années, je crois que toutes les générations de directeurs se sont confrontées à cet événement culturel complètement atypique. On ne s'attend pas du tout, quand on vient en Australie, à tomber sur un festival de films français qui soit aussi prestigieux, aussi important. Et voilà, et c'est vraiment du pain sur la planche. Vous savez, il y a une 50aine de films. Cette année, c'était complètement délirant, puisque c'était les 30 ans. On a eu un peu plus de 4 semaines de festival, avec énormément de séances. Vous savez, ça se déroule un peu partout à Melbourne. Nous, on est sur le front, j'allais dire 24 heures sur 24, c'est exagéré, mais vraiment pendant toute la durée du festival, tous les jours, par Mons et par Vaux. Et puis bien sûr, toute la préparation. Alors ce qui est bien avec le festival du film, c'est que c'est un travail d'équipe à Melbourne, mais surtout d'équipe des Alliances françaises. C'est aussi atypique pour ça, le French Film Festival, parce que c'est un projet des Alliances françaises d'Australie qui nous réunit chaque année et qui nous oblige à nous parler vraiment très très régulièrement. C'est une organisation complètement atypique. Melbourne d'ailleurs a une part importante dans l'organisation du festival. C'est Françoise Libot, que vous connaissez bien, qui assure toute la logistique, c'est-à-dire qu'elle est en charge finalement de l'acheminement des films dans toutes les salles de cinéma partenaires du French Film Festival à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande cette année, puisqu'on s'était occupé aussi de cette partie du festival. C'était la nouveauté, enfin une des nouveautés. C'est une grande aventure. C'était très étrange cette année de me dire « Tiens, c'est mon dernier festival ». Alors, on a terminé par ce feu d'artifice des 30 ans. Melbourne a fait encore plus d'entrées que l'année précédente. Et il y avait une très très belle programmation cette année. Je ne sais pas si vous êtes allé beaucoup au cinéma, mais moi j'étais très fier de cette programmation. Et on a eu aussi des invités intéressants qui étaient plutôt des metteurs en scène cette fois-ci. Enfin, il y avait un acteur metteur en scène, mais voilà. Puis on est déjà en train de préparer la suite, hein, donc le festival 2020. On est déjà en train de faire des choix de programmation. Et voilà, ça repart. C'est d'ailleurs le moment, là, le mois de septembre, où les choses vont à nouveau s'agiter pour les Alliances françaises, dans la perspective de la prochaine édition du festival. Ouais.
J'imagine qu'une Alliance française n'existerait pas sans les francophiles. Quel regard portez-vous sur les francophiles de Melbourne qui veulent connaître davantage la langue française, la culture française ?
Écoutez, c'est très surprenant de voir près de 20 000 kilomètres de la France, c'est pas tout à fait ça, mais j'aime bien le dire, de voir un peuple, les Australiens, aussi ouverts, aussi portés en fait sur l'esprit français, on va dire. J'ai du mal à le définir, cet attachement, mais il y a une vraie connexion avec la France. Alors elle se fait par les voyages, vous savez, il y a beaucoup d'Australiens qui visitent la France, mais effectivement une vraie francophilie. Au bout de ces 4 ans, je me dis que ce qui plaît probablement beaucoup aux Australiens chez les Français, c'est bien sûr l'art de vivre à la française, mais c'est cette petite aussi impertinence qui nous caractérise, enfin qui caractérise les Français, et qui, voilà, enfin en tout cas je trouve que les Australiens sont très très indulgents à l'endroit des Français, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'autres peuples anglo-saxons, et c'était une vraie surprise pour moi de le découvrir, d'autant plus que c'était pas le cas dans les années 80-90. Il y avait beaucoup de tensions diplomatiques, mais politiques essentiellement, et de voir que à l'aube de 2020, ben tout ça est oublié en fait, et dès que vous parlez français, dès que vous vous présentez comme français, vous êtes tout de suite très très bien accueilli dans ce pays, en tout cas à Melbourne, mais je l'ai remarqué aussi à Sydney. Je ne sais pas comment c'est dans les autres villes, mais je ne vois pas pourquoi ça échapperait à la règle. Puis maintenant, Adélaïde est un peu au centre de ces relations franco-australiennes, donc il n'y a pas de raison que ce goût de France, en quelque sorte, disparaissent.
Et y a-t-il une coopération serrée avec le gouvernement du Victoria? Je pense peut-être à une coopération plutôt linguistique.
Oui, c'est le cas, je pense, dans toutes les alliances, mais à Melbourne, avec le Department of Education and Training, qui est l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, il y a une relation forte entre l'Alliance française et cette administration sur des problématiques de formation de professeurs, mais également de projets qui concernent les scolaires. Et particulièrement les élèves qui relèvent du VCI. On a comme ça une convention, en tout cas chaque année, que l'on passe avec le DET, et c'est intéressant parce que c'est aussi, on en fait le bilan chaque année et on redéfinit nos objectifs tous les ans. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue avec l'organisation en fait du paysage de l'éducation nationale ici. Et oui, l'Alliance française est aux avant-postes, en tout cas sur pas mal de projets.
Il y a eu l'ouverture dans la CBD d'une succursale de l'Alliance française,
oui,
de Melbourne.
Oui, c'est indépendant. L'Alliance française est une vieille dame. Hein, donc, c'était le projet de ma prédécesseure d'ouvrir. Elle est arrivée avec ce mandat, d'ailleurs, d'ouvrir une antenne dans le CBD. On ne s'attendait pas à ce que ça marche si fort. Et effectivement, c'est un vrai, vrai succès. Mais ce n'est pas très étonnant parce que, historiquement, l'Alliance française, vous le savez, est basée à Saint-Kilda, même si elle a bougé un peu partout à Melbourne. Elle a été créée à Saint-Kilda, ça fait pas mal d'années qu'elle y est implantée. Et on s'aperçoit que Saint-Kilda, c'est quand même un quartier un peu excentré, même si c'est pas loin du centre. Mais ça peut être compliqué, surtout pour les populations du nord, etc., de s'y rendre. Et depuis l'ouverture de cette antenne, on a un succès qui ne se dément pas, en fait, d'année en année. Et qui interroge. Alors surtout quand on est français, on sent que ici tout est fait pour privilégier le centre-ville, qui est une espèce de carrefour absolu au centre de Melbourne. Les autorités locales favorisent. Bah, d'ailleurs, il y a des transports gratuits, tout ça. Enfin, c'est impensable en France qu'une grande ville concentre autant d'avantages. On va tenter de plutôt privilégier les périphéries, etc. C'est pas vraiment le cas ici, et c'était un bon choix en fait d'ouvrir cette antenne dans le CBD, et je pense qu'il faudra se poser la question à l'avenir sur le devenir de l'Alliance française, voilà, entre Saint-Kilda, le CBD, il va peut-être falloir à un moment trancher. Saint-Kilda, c'est le bâtiment est absolument somptueux, on a des espaces formidables, mais comme je vous le dis, c'est compliqué parfois d'y venir, c'est compliqué de se garer aussi, même si on a un parking, il est vite plein. Voilà, dans le CBD, il n'y a plus de problème, il y a des parkings partout, même si tout est payant. en tout cas, les gens y viennent bien volontiers, plus volontiers en tout cas.
Peut-on parler de vos projets d'avenir, Michel Richard ?
Oui, alors moi je retourne dans ma maison, je viens du ministère de la Culture, j'y ai fait l'essentiel de ma carrière, enfin j'ai comme aussi ces dernières années été sur des projets et des sujets culturels, mais pour le compte d'un autre ministère, le ministère des Affaires étrangères. Mais là, je reviens à la maison, en quelque sorte, en faisant un petit détour, puisque je m'éloigne pas tant que ça de Melbourne. Je pars en Nouvelle-Calédonie, où je vais m'occuper des services culturels de l'État, pour le compte donc du ministère de la Culture, qui est un service que je connais bien. J'ai travaillé... c'était pas vraiment le début de ma carrière, mais je peux dire qu'il y a déjà très longtemps, comme responsable des affaires culturelles au ministère des DOM-TOM, des départements et des territoires d'outre-mer, donc à Paris. Et j'ai suivi les dossiers culturels calédoniens particulièrement. Et c'était à un moment d'ailleurs où on renégociait les accords de Matignon qui sont devenus les accords de Nouméa. Et c'est très intéressant pour moi, plus de 20 ans après, 25 ans après, de revenir en bout de processus, en quelque sorte, puisque vous le savez, la Calédonie va peut-être devenir indépendante, on ne le sait pas. Il y a eu un référendum qui a eu lieu l'année dernière et qui a dit non à l'indépendance, mais il va y en avoir un autre. En cas de victoire du non à l'indépendance, il y en aura encore un autre. C'est tous les deux ans, donc le prochain, c'est l'année prochaine, et on verra. Enfin, moi, je ne prends pas ça comme une calamité, loin de là. Hein. C'est au peuple calédonien de décider de son avenir. Et je crois que, en tout cas, le gouvernement français a accompagné ce processus d'émancipation qu'on a retrouvé, d'ailleurs, dans le résultat des élections, avec un non à l'indépendance pas si écrasant que ça. Donc écoutez, on va voir. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je vais représenter l'État. L'État n'a plus de compétences dans le domaine culturel, donc ça nous donne une grande indépendance. J'ai envie de dire, on est gardien de certains équilibres, mais on n'est plus en responsabilité. Voilà, donc c'est particulièrement intéressant. Ça donne beaucoup de liberté, en tout cas.
Michel Richard, merci et meilleurs vœux et bonne continuation.
Merci et à bientôt, parce que je serai voisin, donc je reviendrai. Moi, je me suis fait quand
de
même
temps à autre.
Pas mal d'amis ici et je ne peux pas oublier Melbourne comme ça.
Toujours un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Merci à vous.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.